إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu dans l'assise d'hier l'importance de la bienfaisance envers les parents. Et dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est tout aussi important et qui concerne nos devoirs envers les enfants. Tout d'abord, il est important de savoir que les enfants sont un bienfait parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et un don qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a d'ailleurs rappelé ce bienfait et il a dit dans son noble livre: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Il crée ce qu'il veut. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. Il fait don de fille à qui il veut et il fait don de garçon à qui il veut. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Ou bien il donne à la fois garçon et fille et il rend stérile qui il veut. On voit donc à travers ces versets que les enfants sont un bienfait pour le serviteur. Toutefois, pour que ce bienfait soit un réel bienfait, il est indispensable pour nous que nous accomplissions nos devoirs envers ces enfants et que nous leur accordions leurs droits, comme cela est établi dans notre noble législation, la législation de l'islam, qui est la religion qui a donné à chacun son droit. Et afin de pouvoir accorder à tes enfants leurs droits, il est indispensable pour toi d'apprendre quels sont leurs droits et quels sont tes devoirs vis-à-vis d'eux. Car si tu n'as pas connaissance de tes devoirs et des droits qu'ont tes enfants sur toi, alors il ne sera pas possible pour toi de t'en affranchir. C'est pour cela que j'ai trouvé utile et opportun, durant ce séminaire, de me rappeler, ainsi qu'à mes frères et sœurs, l'importance des droits de nos enfants et quels sont les droits que nos enfants ont sur nous, et ce afin que nous puissions accomplir nos devoirs envers eux avec science et clairvoyance par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc commencer à énumérer les droits des enfants tout en sachant que ces droits sont de deux catégories. La première catégorie, ce sont les droits qu'ils ont avant leur naissance. Et la deuxième catégorie concerne les droits qu'ils ont après leur naissance. Et on va commencer par les droits de l'enfant avant sa naissance. En effet, l'enfant a des droits sur ses parents avant même qu'il ne vienne au monde. Et le premier de ces droits, c'est que ses parents soient pieux et vertueux. Vous connaissez tous l'histoire de la rencontre entre Moussa et Al-Khadir, alayhi salam, qui est mentionné dans Surat Al-Kahf. Lorsqu'ils se rendirent dans un village où ils demandèrent à manger à ses habitants, mais les habitants de ce village refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils trouvèrent dans ce village un mur sur le point de s'écrouler. Alors, Al-Khadir redressa ce mur. Et Moussa lui dit alors: « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. » Et c'est ceci qui a marqué la séparation entre Moussa et Al-Khadir, alayhim as-salam. Suite à cela, Al-Khadir informa Moussa de l'interprétation de ce qu'il venait de faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: « وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. » Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor qui leur appartenait. Et leur père était un homme vertueux. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Donc on voit dans ce verset une preuve évidente que la vertu de l'homme, c'est une cause pour qu'il soit préservé jusqu'à dans sa descendance. la bénédiction de l'adoration qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa piété, cela lui profite à lui-même, et cela profite même à ses enfants. Et son bien, il se répand jusque dans sa descendance après lui. Saïd ibn Jubayr, rahimahullahu ta'ala, rapporte d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, qu'il a dit au sujet de ce verset, « Ils ont été préservés par la piété de leur père. » C'est la piété de leur père qui était la cause de la préservation de ses enfants et de leur trésor. L'imam Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullahu ta'ala, qui est un tabi'i, un des disciples, des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, a dit à ce sujet, « Allah préserve certes, par la préservation de l'homme vertueux, ses enfants et les enfants de ses enfants, ainsi que le foyer dans lequel il se trouve et les foyers qui l'entourent. Il ne cesse donc d'être sous la préservation d'Allah et sa protection. » On voit donc à travers cela l'importance pour l'homme, tout comme pour la femme, de commencer tout d'abord par se réformer, de te tenir droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même d'avoir des enfants et avant même de te marier. Car certes, celui qui est pieux, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera les choses. Il lui facilitera pour le mariage, il lui facilitera pour ses enfants, et ainsi de suite, dans les différentes affaires de sa vie ici-bas. Donc, la première chose à faire, c'est de nous réformer nous-mêmes. De commencer à nous réformer, à nous maintenir sur la droiture, en nous soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en délaissant les interdits d'Allah. Et ceci est notre premier devoir envers les enfants, avant même qu'ils ne viennent au monde. Deuxièmement, parmi les droits des enfants avant leur naissance, il y a le fait de choisir un conjoint pieux. Comme on l'a déjà mentionné dans un cours précédent, il convient à l'homme de choisir une épouse pieuse et vertueuse, une femme qui sera une bonne mère et une bonne éducatrice pour ses enfants. Car la mère, c'est celle qui joue le rôle le plus important dans l'éducation des enfants. Et notre religion, elle nous a encouragés à choisir l'épouse pieuse et vertueuse, comme nous l'avons mentionné dans un cours précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, « Ce bas monde est objet de jouissance. Et la meilleure jouissance de ce bas monde est la femme pieuse. » Et on a déjà mentionné le hadith rapporté par al-Bukhari et muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La femme est épousée pour quatre raisons, pour ses biens, pour sa lignée, pour sa beauté ou pour sa religion. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Choisis celle qui a la religion ou tes mains seront recouvertes de poussière. » Donc choisir une épouse pieuse, cela fait partie des premiers droits des enfants avant même qu'ils ne viennent au monde. Il t'incombe de rechercher une femme pieuse qui sera la mère de tes enfants. Abu l'Aswad ad-Duali a dit à ses enfants, « J'ai certes été bienfaisant envers vous, petits et grands, et même avant votre naissance. » Alors ses enfants lui ont dit, « Comment as-tu été bienfaisant envers nous avant notre naissance ?» Il leur répondit, « J'ai choisi pour vous des mères par lesquelles on ne vous dénigrera pas. » C'est-à-dire qu'il a choisi pour eux des mères pieuses. Et ceci est tout aussi valable pour la femme. Elle doit veiller à choisir un époux pieux, une personne qui va s'entraider avec elle dans l'éducation des enfants de façon convenable et de façon conforme à notre religion. Car l'homme aussi, il joue un rôle important dans l'éducation des enfants. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Et comme on a dit, la piété, cela doit être le principal critère que doivent rechercher l'homme et la femme lors du choix de leur conjoint. Le troisième droit des enfants, avant leur naissance, c'est le fait de veiller au suivi de la sunna lors de relations intimes. Et ce, en prononçant les évocations confirmées et rapportées dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, en disant « Bismillah, Allahumma jadnibna shaytan » Au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas. Cette invocation, elle doit être prononcée par l'homme lorsqu'il s'apprête à avoir un rapport avec son épouse. Et après avoir ordonné de prononcer cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après cela, s'il est décrété qu'il y ait entre eux un enfant, le diable ne lui nuira jamais. Subhanallah. On voit à travers cela le grand bien qu'il y a dans le suivi de la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe donc à l'homme de prendre soin de suivre cette orientation prophétique afin de préserver sa descendance, et il doit s'accrocher au suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même dans une telle situation. Le quatrième droit, c'est l'invocation. C'est-à-dire que les époux invoquent Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur accorde des enfants pieux. Et ceci est la voie des gens de la vérité et la voie des gens de la foi. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, décrivant ses serviteurs pieux, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ceux qui disent, notre Seigneur, donne-nous la joie des yeux en nos épouses et nos descendants et fais de nous des guides pour les pieux. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire ceux qui demandent à Allah de faire sortir de leur descendance ceux qui obéiront à Allah et l'adoreront seuls, sans aucun associé. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de ce verset. À savoir, est-ce que cette joie des yeux a lieu ici-bas ou dans l'au-delà? Il répondit, rahimahullah, elle est plutôt ici-bas. On lui dit alors, et quelle est-elle? Il répondit, c'est que le croyant voit son épouse et ses enfants obéir à Allah. Et y a-t-il une joie plus grande pour les yeux du croyant que le fait de voir son épouse et ses enfants obéir à Allah? Ceci est la parole de l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Et je ne vais pas trop m'étaler sur l'explication de ce verset, car ce sera le sujet du cours de jeudi soir, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Zakariya, هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا. Alors Zakariya invoqua son Seigneur et dit, « Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une bonne descendance. Tu es certes celui qui répond à la vocation. » Zakariya, il n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'il a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordait à Maryam de nombreux bienfaits, comme le fait qu'il lui accordait des fruits d'hiver en été, des fruits d'été en hiver, il a alors désiré avoir un enfant. Et ce malgré que lui et son épouse étaient âgés. Alors il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala et lui demanda de lui accorder une bonne descendance. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire un enfant pieux. C'est-à-dire qu'il a demandé un enfant pieux. Il fait donc partie des devoirs des parents de veiller à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans les moments propices à l'exaucement, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder une descendance pieuse. Car la descendance pieuse, c'est un bienfait immense pour l'homme dans sa vie, et même après sa mort. En effet, on a déjà vu, lors d'une précédente assise, deux hadiths à ce sujet. Et il n'y a pas de mal à les rappeler aujourd'hui. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Lorsque l'homme meurt, ses œuvres sont interrompues, à l'exception de trois. Une aumône continue, une science dont on profite, ou un enfant pieux qui invoque en sa faveur. » Et l'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, a aussi rapporté d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme se verra élevé en degré au paradis, il dira alors, d'où me vient cela? D'où me vient cette place? On lui répondra, par l'imploration du pardon de ton enfant en ta faveur. Donc les enfants, c'est un bienfait immense pour la personne. Un bienfait qui lui profite, ici-bas, et même dans l'au-delà. Il est donc important pour la personne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui accorde une descendance pieuse et vertueuse. Et de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les parents à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur accorde une descendance pieuse. Il nous a également mis en garde contre le fait d'invoquer contre nos enfants. Et malheureusement, ceci est un fléau qui est répandu chez certains parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'invoquez pas contre vous-même, n'invoquez pas contre vos enfants, n'invoquez pas contre vos biens. Vous risquez en effet d'invoquer à un moment durant lequel Allah exauce les invocations et il vous exaucera alors. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, trois invocations sont exaucées. Sans aucun doute, l'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation du père contre son fils. C'est donc très dangereux d'invoquer contre tes enfants. Prends garde à cela. Même si tu es en colère, prends garde à ne pas invoquer contre eux. On rapporte qu'un homme s'est plaint de certains de ses enfants à l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. Alors, Abdullah ibn al-Mubarak dit à cet homme, « As-tu invoqué contre lui » C'est-à-dire contre cet enfant dont il se plaint. L'homme lui répondit « Oui ». Alors Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, lui dit, « C'est toi qui l'as corrompu. » C'est-à-dire par cette invocation contre son enfant. Il faut donc prendre garde à cela. Et au lieu d'invoquer contre eux, il faut plutôt invoquer en leur faveur. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rende pieux. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rende vertueux. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide sur la droiture. Et qu'il te soit ainsi profitable durant ta vie et après ta mort, incha'Allah ta'ala. Enfin, le cinquième droit, ou le cinquième devoir des parents envers leurs enfants avant leur naissance, c'est le fait de prendre soin d'eux lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire qu'il est interdit de nuire à l'enfant ou de le causer du tort d'une quelconque manière, et à plus forte raison, il est interdit d'avorter. Les parents, ils doivent plutôt prendre soin de l'enfant durant cette période et craindre Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet. Et le serviteur doit s'efforcer de préserver son enfant, et ceci fait partie des droits de l'enfant qu'il est interdit de transgresser. Et malheureusement, il est étonnant d'entendre que certaines personnes s'efforcent de nuire à leurs enfants durant cette période. Et pire encore, d'entendre que certaines mères avortent, que certains pères contraignent leurs épouses à avorter, wal'ayadu billah. Malgré tout le bien qu'il y a dans la descendance pieuse, comme on vient de le voir à travers les hadiths que l'on a cités, comment la personne peut-elle se priver de ce bien immense? Allah al-Musta'an. Et pour prendre soin des enfants durant cette période et leur accorder pleinement leurs droits, il est impératif de prendre soin de leur mère et de prendre en considération la situation de la femme durant cette période, qui est une période très difficile pour elle. En effet, durant la grossesse, la femme subit certaines transformations, elle subit des douleurs. Il n'est donc pas convenable pour l'homme d'imposer à son épouse durant cette période des tâches difficiles, des tâches qui pourraient lui nuire ou nuire à l'enfant. Mais il convient plutôt à l'homme de prendre en considération la situation de son épouse, faire en sorte de la préserver et de s'assurer de sa bonne santé et de la bonne santé de l'enfant qu'elle porte en son ventre. Aussi, il est important de savoir que durant la grossesse, il est possible que le caractère de la femme ainsi que son humeur soit différent. Il y a même certains maris qui disent ne pas reconnaître leur épouse durant la grossesse. Et ceci est dû aux transformations hormonales, comme cela a été mentionné par les spécialistes à ce sujet et confirmé par nos savants. Le mari doit donc prendre en considération cela, passer dessus et patienter sur cette situation et ne pas faire des choses qu'il viendrait à regretter par la suite. Ceci est donc le cinquième droit de l'enfant sur ses parents avant sa naissance, qui est le fait de prendre soin de lui durant la période où il se trouve dans le ventre de sa mère. Nous allons maintenant voir nos devoirs envers nos enfants après leur naissance. Et les droits de l'enfant sur ses parents après sa naissance, ils sont très nombreux, mais je vais essayer, incha'Allah ta'ala, de mentionner ici les plus importants d'entre eux. Premièrement, il y a le fait d'accueillir l'enfant de façon conforme à la sunna, c'est-à-dire conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et entre dans cela le fait de pratiquer ce que l'on appelle la tahnik, que je vais expliquer par la suite, et d'invoquer la bénédiction en la faveur de l'enfant. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Moussa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit: un de mes enfants aînés, je l'ai alors emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a nommé Ibrahim. Il lui a frotté le palais avec une date, a invoqué la bénédiction en sa faveur, puis me l'a remis. Donc cette technique, c'est le fait que tu prennes une date dans ta bouche, que tu la mâches jusqu'à ce qu'elle devienne liquide, puis que tu en introduises dans la bouche du nouveau-né et que tu lui frottes son palais avec. Et ce, après la naissance. Et certaines personnes pourraient se demander, et comment faire si je n'ai pas de date? Dans ce cas-là, les savants, rahimahumallah ta'ala, ont mentionné de fait de prendre un autre aliment sucré. Et le mieux est le miel d'abeille, comme l'a mentionné Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans Fath al-Bari, le commentaire de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Quant au fait de faire l'appel à la prière, ou l'iqama, dans l'oreille du nouveau-né, alors les hadiths rapportés à ce sujet ne sont pas authentiques. Ceci ne fait donc pas partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Parmi les droits de l'enfant, après sa naissance, il y a le fait de choisir pour lui un beau prénom. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de changer les prénoms qui étaient déplaisants et il a encouragé sallallahu alayhi wa sallam à donner de beaux prénoms. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus aimés de vos prénoms auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Donc ces deux prénoms, ils sont fortement recommandés. Et de la même manière, les prénoms semblables à cela, comme Abdurrahim, Abdulkarim, Abdulwahid, ou autres, parmi les prénoms indiquant la servitude à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il convient donc au père de choisir de beaux prénoms pour ses enfants, et de prendre garde à ne pas leur donner des prénoms interdits, ou des prénoms réprouvés, ou encore des prénoms qui ne conviennent pas aux musulmans. Et parmi les prénoms interdits, il y a tous les prénoms indiquant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Abdul Rasul, le serviteur du messager, ou Abdul Nabi, le serviteur du prophète, ou Abdul Hussein, ou autres prénoms semblables ayant une signification qui relève du polythéisme. Également, il est interdit de donner à son enfant un prénom parmi les prénoms des mécréants, ainsi que tout prénom comportant un éloge ou une recommandation pour la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de changer les prénoms interdits ou les prénoms déplaisants par de beaux prénoms. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé le nom de Asiya, qui signifie désobéissante, et lui a dit: tu es Jamila, qui signifie belle. Et ici j'attire votre attention sur le fait qu'on trouve dans certains ouvrages ce prénom dans la liste des prénoms interdits. Mais étant donné que le prénom est écrit en lettres françaises, certaines personnes pensent qu'il désigne le prénom Asiya, alors que le prénom Asiya est un prénom qui est permis. Le prénom qui est interdit, c'est Asiya, avec un Ayn en première lettre. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte aussi que Muhammad ibn Amr ibn Atta avait appelé sa fille Barra, qui signifie bienfaisante. Alors, Zainab, la fille de Abu Salama, elle leur a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit ce prénom. En effet, Zainab, elle-même, elle avait été nommée ainsi. Elle avait été nommée Barra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne recommandez pas vous-même vos propres personnes. Allah sait mieux qui parmi vous est bienfaisant. Ils ont alors demandé comment l'appeler, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: appelez-la Zainab. C'est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a changé son prénom. Et il y a dans la sunna de nombreux exemples semblables à cela. Et le beau prénom, cela fait donc partie des droits des garçons et des filles sur leurs parents. Il est obligatoire pour nous de bien choisir ces prénoms, que ce soit des prénoms convenables, et non pas des prénoms par lesquels l'enfant pourrait se faire dénigrer par la suite, ou un prénom qui sera source de raillerie ou de mépris à son égard. Il y a certains parents qui vont choisir des prénoms à la mode, ou alors des prénoms qui leur plaisent sans tenir compte de l'intérêt de l'enfant. Il y a des parents qui vont rechercher l'originalité. Ils veulent un prénom peu connu, un prénom que personne ne porte. Mais ceci ne fait pas partie de la guidée des salafs. Rahimahumullah ta'ala. Tu as devant toi une multitude de beaux prénoms, parmi les prénoms des prophètes, les prénoms des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les prénoms des femmes pieuses, parmi les salafs et celles qui les ont précédées. Alors pourquoi vas-tu chercher d'autres prénoms qui sont des prénoms étrangers, méconnus ou autres? Parfois, il se peut même que certains prénoms aient une mauvaise signification, ou alors qu'ils aient une consonance pouvant mener à prendre en raillerie la personne qui porte ce prénom, Allahu musta'an. Les parents doivent donc prendre en considération cela, car il est bien connu qu'il est interdit pour le musulman de nuire aux musulmans. Tu dois donc prendre garde de ne pas être la cause d'une quelconque nuisance sur ton fils ou sur ta fille à cause d'un prénom dont t'as plus l'originalité. Et ceci fait partie des droits de l'enfant sur ses parents, qu'il choisisse pour lui un beau prénom. Et parmi les questions liées à ce sujet, il y a le moment où le prénom doit être donné à l'enfant. Quand doit-on lui donner son prénom? Il est recommandé de le nommer le 7e jour ou le 1er jour, car ces deux situations sont confirmées dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith que l'enfant est nommé le septième jour, lors de sa aqiqa. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé son fils, Ibrahim, le jour de sa naissance. Et il a nommé d'autres enfants, le jour de leur naissance, comme on l'a vu dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, que l'on vient de mentionner. Et certains savants ont dit que si le prénom que tu souhaites donner à ton enfant a déjà été choisi le premier jour, alors tu le nommes dès le premier jour. Mais si le prénom n'a pas été choisi et que tu ne t'es pas décidé, alors il est recommandé d'attendre le septième jour. Il est permis de le nommer avant le septième jour. Il n'y a pas de gêne en cela. Et ceci est l'avis de l'éminent Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et en cas de divergence entre les parents sur le prénom à donner à l'enfant, que l'enfant soit un garçon ou une fille, le droit revient au père, car c'est lui qui est le plus en droit de cela, comme l'ont mentionné l'ensemble des gens de science. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, « Prénommer l'enfant est un droit du père et non de la mère. » Et ceci fait partie des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence entre les gens. Et le fait de prénommer l'enfant est un droit du père, car l'enfant est appelé par le nom de son père. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'indallah. » Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Et au jour de la résurrection, les gens seront appelés du nom de leur père. Un tel fils d'un tel, comme cela est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, lorsqu'on dit que ceci est un droit du père, cela ne veut pas dire qu'il est obligatoire pour le père de prénommer l'enfant. Mais si les parents se consultent pour choisir le prénom, ou que le père, il cède parfois ce droit à la mère de l'enfant, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Au contraire, ceci fait partie du bon savoir-vivre qui doit être présent au sein du couple. Le troisième droit de l'enfant, après sa naissance, c'est la aqiqa. L'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah ta'ala a dit « Les gens ne délaissaient pas la aqiqa pour le nouveau-né, garçon ou fille. » Et en quoi consiste la aqiqa? La aqiqa, elle consiste à sacrifier un mouton ou une chèvre si le nouveau-né est une fille, et deux si c'est un garçon, et ce au septième jour, si cela est possible. Sinon, il le fait au quatorzième jour ou au vingt-et-unième jour. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, et authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahum Allah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout enfant est lié à sa aqiqa. Elle est sacrifiée pour lui le septième jour. On lui rase les cheveux et lui donne son prénom. » Et Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de sacrifier en guise de aqiqa une bête pour la fille et deux pour le garçon. » Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Salih, le fils de l'imam Ahmed, rahimahumallah, a rapporté de son père qu'il a dit au sujet de la aqiqa. Elle est sacrifiée le septième jour. S'il ne le fait pas, alors le quatorzième jour. Et s'il ne le fait pas, alors le vingt-et-unième jour. Toutefois, le choix du jour est recommandé. Il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si la personne ne peut pas le faire le septième jour, ni le quatorzième, ni le vingt-et-unième, alors il le fait quand cela lui est facilité. Que cela soit avant ou après cela. Mais le mieux reste le septième jour. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, s'il sacrifie après le septième jour ou avant celui-ci, alors ceci est valide tant que c'est après la naissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de le faire avant la naissance. Et s'il sacrifie avant la naissance, alors ceci n'est pas valide, et ce sans aucune divergence. Et parfois, certaines personnes ont du mal à déterminer quel est le septième jour. Donc le septième jour, c'est le jour qui précède celui de la naissance durant la semaine suivante. C'est-à-dire que si l'enfant est né par exemple un mardi, alors la aqiqa aura lieu le lundi suivant, le lundi de la semaine suivante. S'il est né un lundi, la aqiqa aura lieu le dimanche, et ainsi de suite. Et si l'enfant est né la nuit? Dans ce cas, le premier jour est celui qui suit la nuit de la naissance. Par exemple, si l'enfant est né la nuit du dimanche au lundi, alors on dira que le premier jour, c'est le lundi. Et le septième jour sera le dimanche, et ainsi de suite. Et avant de conclure sur ce droit, j'aimerais éclaircir le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que l'on a mentionné. Tout enfant est lié à sa aqiqa. Et ce hadith, il pourrait aussi être traduit en disant « Tout enfant est mis en gage contre sa aqiqa ». Et quel est le sens de cela? Les savants, rahimahumullah ta'ala, ont divergé quant à l'interprétation de cette parole. Et parmi les meilleures explications, il y a celle qu'a soutenue l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui a dit que cela concerne l'intercession. C'est-à-dire que si sa aqiqa n'est pas faite et que le nouveau-né meurt dans son enfance, alors il n'intercédera pas pour ses parents. On voit donc à travers cela l'importance de ce droit et que la aqiqa est une chose à ne pas négliger. Le quatrième droit des enfants, c'est l'allaitement. C'est-à-dire que le nouveau-né ne doit pas être privé du lait de sa mère. Sauf en cas de force majeure, comme la maladie par exemple. Et ce car le lait de sa mère, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus profitable pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَ الرَّضَاعَةَ » Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Et il est confirmé qu'il y a dans l'allaitement des bienfaits immenses pour la mère et des bienfaits immenses pour l'enfant. En effet, lorsque l'enfant est allaité, il profitera ainsi de la proximité de sa mère et de son affection. Et il n'y a pas de doute que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose ou nous encourage à une chose, c'est qu'il y a dans celle-ci un bienfait pour nous, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Il n'est donc pas permis à la mère de causer du tort à son enfant en refusant de l'allaiter alors qu'elle en a les capacités. D'ailleurs, une menace sévère est rapportée à ce sujet. Dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Abi Umama al-Bahiri radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il avait vu des femmes aux poitrines mordues par des serpents. Il a alors interrogé à leur sujet. On lui a dit « Ce sont celles qui privent leurs enfants de leur lait, c'est-à-dire celles qui refusent de les allaiter. » Ce hadith nous prouve qu'il convient à la femme d'être attentive à ce sujet. Et de la même manière, il n'est pas permis à l'homme d'interdire à son épouse d'allaiter son enfant. Au contraire, l'homme doit encourager son épouse à cela et lui fournir tout ce qui pourra l'aider dans l'allaitement de son enfant. Et l'allaitement complet, il est d'une durée de 2 ans. Et c'est un droit de l'enfant s'il en a besoin et qu'il ne peut pas s'en passer. Et on voit aujourd'hui, dans de nombreuses études contemporaines, que les médecins encouragent à l'allaitement et démontrent les bienfaits de l'allaitement et encouragent les mères à allaiter leurs enfants pour les nombreux bienfaits que cela comporte, autant pour la santé de l'enfant que pour la santé de la mère. Donc, le nouveau-né, il ne doit pas être nourri par autre chose que le lait de sa mère, sauf en cas de force majeure. Cinquièmement, parmi les droits de l'enfant, il y a le fait de subvenir à ses besoins. Le père a pour obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, que ce soit en termes de nourriture, en termes de boissons, de vêtements, et ainsi de suite. Et il doit prendre garde à ne nourrir ses enfants que de choses licites, et s'écarter de toute chose illicite. Et ce car nourrir les enfants de l'illicite, c'est en réalité une tromperie et une trahison envers eux. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a rapporté, d'après Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhumah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis un corps nourri de l'illicite et le feu a priorité sur lui. » Ce hadith, c'est une menace sévère pour ceux qui se nourrissent de l'illicite et ceux qui nourrissent leur famille de l'illicite. Donc le musulman, il doit prendre garde et ne rechercher sa subsistance que dans le licite. Et tu dois t'éloigner de toute forme d'argent illicite, comme par exemple l'argent des riba, l'argent de l'intérêt usuraire, ou l'argent issu de commerce illicite, ou l'argent issu de la tromperie, du vol, de l'escroquerie, ou toute forme et toute manière de gagner de l'argent illicite. Le musulman, il doit faire des efforts pour ne rechercher sa subsistance que de manière licite, pour nourrir sa descendance d'une subsistance bonne et licite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subvenir aux besoins de l'enfant, c'est une obligation envers eux. Et malgré cela, les parents, ils ne doivent pas craindre la pauvreté. En effet, il y a certains parents qui, par peur de la pauvreté ou par peur de devoir nourrir leurs enfants et de subvenir à leurs besoins, ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ » Ne tuez pas vos enfants Par cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Donc on voit à travers ces versets que le musulman, il ne doit pas craindre d'avoir des enfants par peur de la pauvreté. Car la subsistance de tes enfants, elle incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ta subsistance avec un ou deux enfants, il te l'accordera aussi si tu as 7, 8, 9 ou encore plus d'enfants. Car chacun de tes enfants vient au monde avec sa subsistance écrite. Donc, ce qu'il t'incombe à toi, c'est de placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir les causes légiférées et de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et subvenir aux besoins de l'enfant, c'est donc un de ses droits sur ses parents qu'il ne faut pas négliger. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'homme comme péché de négliger ceux qui sont à sa charge. » Sixièmement, parmi les droits de l'enfant, il y a le fait d'être bienveillant envers eux, de les embrasser et d'être équitable entre eux. On a vu dans le cours, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses enfants. Il embrassait aussi ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, les fils de Ali et de sa fille Fatima, radiyallahu ta'ala anhum. Et on a vu qu'un jour, un homme le vit embrasser Al-Hassan. Alors il lui dit, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé aucun d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda alors et lui dit, celui qui n'est pas miséricordieux, on ne sera pas miséricordieux envers lui. Donc embrasser les enfants, cela fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un exemple de bonté et de miséricorde envers les enfants. Et dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, un bédouin est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, vous embrassez vos enfants et nous ne les embrassons pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé et lui a dit, et que puis-je faire pour toi si Allah a retiré de ton cœur la miséricorde? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, les salafs rahimahumallahu ta'ala aimaient être équitables entre les enfants dans les bises. C'est-à-dire qu'ils prenaient garde à ne pas être injustes en embrassant un enfant plus qu'un autre, ou en manifestant de l'affection à un enfant plus qu'à un autre. On voit à travers cela que l'équité entre les enfants, c'est une affaire très importante. Et la négligence à ce sujet, c'est une grave erreur dont l'auteur encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala ont rapporté que le père de Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma lui fit un cadeau. Il alla alors voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui dit, j'ai offert un cadeau à mon fils et sa mère m'a enjoint de te prendre pour témoin de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, as-tu offert la même chose à tous tes autres enfants? Il lui répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, craignez Allah et soyez équitable entre vos enfants. On voit à travers ce hadith que l'équité entre les enfants, c'est une chose obligatoire. Il est obligatoire pour les parents d'être équitables envers leurs enfants. Que ce soit dans les affaires matérielles, comme les cadeaux ou autres, ou alors dans les affaires morales, comme la bienveillance, les bises, l'affection, et ainsi de suite. Et les savants ont divergé sur la manière d'être équitable entre les garçons et les filles. Et l'avis le plus connu est que l'équité entre le garçon et la fille consiste à leur offrir exactement la même chose à valeur égale. C'est-à-dire que si tu as des garçons et des filles, et que tu souhaites leur offrir de l'argent, tu leur offres alors la même somme à chacun, garçon et fille. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que l'équité, elle ne consiste pas forcément à dépenser pour chaque enfant de manière égale. Mais cela consiste à dépenser pour chacun selon son besoin. À titre d'exemple, si un de tes enfants est malade, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé à nos enfants. Mais si un de tes enfants est malade et que tu dépenses une certaine somme d'argent afin de le soigner, alors dans ce cas, il ne t'incombe pas de dépenser la même somme pour chacun de tes enfants. Mais ce qui t'incombe, c'est l'équité. C'est-à-dire que si un autre de tes enfants est malade, alors tu vas dépenser pour lui de la même manière afin de le soigner. Ce qui est attendu des parents, c'est qu'ils dépensent pour leurs enfants de manière équitable, chacun selon son besoin. Septièmement, parmi les droits de l'enfant après sa naissance, il y a l'enseignement et l'éducation. C'est-à-dire d'enseigner à l'enfant ce qui lui est profitable pour sa religion ainsi que pour sa vie mondaine, et l'éduquer sur les nobles comportements. Et ce droit, c'est l'un de ses plus grands droits, l'un des droits les plus nobles et des droits les plus importants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Ya ayyuha alladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Si tu vois tes enfants dans une maison en train de prendre feu, il n'y a pas de doute que tu vas tout faire pour les sauver de cet incendie. Tu dois avoir cette ferveur pour sauver tes enfants du feu de l'enfer. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, a dit au sujet de ce verset, « Enseignez à vos personnes et à vos familles le bien et éduquez-les. » Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, « Parfais l'éducation de ton fils, car tu seras interrogé à son sujet, et il sera interrogé sur la bienfaisance à ton égard. » Et al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, a dit, « Éduquez-les et enseignez-leur. » Al-Hafid al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, a dit, « Il incombe au père d'éduquer son enfant et de lui enseigner ce dont il a besoin parmi les règles de la religion. Cet enseignement est une obligation pour le père et l'ensemble des responsables de l'enfant avant sa puberté, garçon et fille. » On voit donc que l'éducation des enfants, c'est une chose obligatoire pour les parents. Et la première chose à enseigner à l'enfant, et la chose la plus importante, c'est que tu lui enseignes la croyance authentique et l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé, et de mécroire en tout autre que lui. Et ceci est le sens de la parole du Tawhid, La ilaha illallah. Médite sur la recommandation de Luqman qu'il fit à son fils. Quelle est la première chose qu'il lui dit? Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Certes, le polythéisme est une grande injustice. On voit à travers cela que la chose par laquelle il convient de commencer, c'est la croyance. Purifie la croyance de tes enfants. Éduque-les sur la croyance saine, la croyance des gens de la sunna et du groupe, la croyance authentique. Apprends-leur le tawhid. Apprends-leur à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et ainsi de suite, parmi les choses liées à la croyance. Également, tu dois l'habituer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment la prière. Également, parmi les choses importantes, il y a le fait d'encourager l'enfant dans le bien, de l'encourager à fréquenter les gens du bien et de s'éloigner des gens mauvais et des mauvaises fréquentations. Et il n'y a pas de doute que si tu sèmes le bien, alors tu récolteras le bien par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu sèmes le mal, alors tu récolteras le mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine de l'islam. Puis ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou adorateur du feu. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit à travers cela que l'éducation, elle joue un rôle très important sur l'évolution de l'enfant. C'est à ce sujet que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, et ce dont a extrêmement besoin l'enfant, c'est que l'on prenne soin de ce qui concerne son comportement. En effet, il grandira sur ce quoi son éducateur l'a habitué lors de son enfance. Puis il a dit, rahimahullah, c'est pour cela que tu trouves la majorité des gens au comportement déviant, et cela est la conséquence de l'éducation sur laquelle ils ont grandi. Donc l'éducation de l'enfant, elle doit commencer dès son plus jeune âge, même s'il n'est pas responsable. Même s'il n'a aucune obligation religieuse, ses parents, eux, ils en sont responsables. Il leur incombe de l'éduquer sur les valeurs de l'islam, sur les enseignements de l'islam. Et il ne leur est pas permis de le laisser en train de commettre des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdites. Si tu le laisses commettre les interdits lors de son jeune âge, il se peut qu'il s'habitue à cela et qu'il soit difficile pour lui de changer ses habitudes lorsqu'il grandira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans, frappez-les pour celle-ci à 10 ans et séparez-les dans les lits. Donc lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, de manière générale, il a en principe atteint l'âge du discernement. C'est-à-dire qu'il sait faire la différence entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'ordonner à nos enfants la prière à l'âge de 7 ans.
et ceci est une obligation pour les parents. À partir de l'âge de 7 ans, si l'un de tes enfants manque une prière, l'enfant, lui, il n'a aucun péché, car la plume est levée tant qu'il n'est pas pubère. Mais toi, par contre, tu es dans le péché de ne pas lui avoir ordonné la prière. Il ne faut donc pas négliger cet ordre. À partir de 7 ans, si ton enfant, tu ne lui ordonnes pas la prière, tu es dans le péché pour cela. Une fois qu'il a atteint l'âge de 10 ans, il incombe aux parents de le corriger s'il est négligent vis-à-vis de la prière. Et tout ceci a pour but qu'il soit prêt et habitué à la prière lorsqu'il atteindra la puberté et que la prière sera obligatoire pour lui. Car si tu ne l'habitues pas, comment veux-tu qu'il soit assidu à ses prières du jour au lendemain? La puberté, elle vient très rapidement. Il ne faut pas penser que la puberté, elle ne vient pas avant 15 ans. Il y a certains enfants qui sont pubères dès 8, 9 ou 10 ans. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains parents qui se plaignent que leurs enfants soient négligents vis-à-vis de la prière. Combien de pères se plaignent et aimeraient voir leurs enfants venir avec eux à la mosquée? Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que tu as accompli ton devoir envers ton enfant lorsqu'il était petit? Ou bien tu l'as abandonné et tu l'as livré à lui-même sans lui enseigner ce qui lui incombe parmi les règles de la purification et de la prière? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: et la corruption de la plupart des enfants vient seulement de leurs parents et de leur négligence envers eux et du délaissement de leur enseignement des obligations religieuses et des sunnans. Ils les ont donc négligés lorsqu'ils étaient petits. Ils n'ont alors pas profité d'eux-mêmes et n'ont point profité à leurs parents en étant grands. Comme l'un d'entre eux a blâmé son enfant pour son mauvais comportement, il lui a alors dit: « Oh mon père, comme tu as été mauvais envers moi lorsque j'étais petit, je suis maintenant mauvais envers toi quand je suis grand. Et comme tu m'as négligé lorsque j'étais enfant, je te néglige maintenant que tu es âgé. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Donc chacun d'entre nous doit se remettre en question vis-à-vis de cela. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard et que les regrets ne te seront plus d'aucune utilité. Il est impératif d'enseigner à nos enfants les bonnes mœurs islamiques. Et ce, car l'éducation et l'enseignement font partie des plus grands droits de l'enfant sur ses parents qu'il ne convient pas de négliger. Huitièmement, parmi les droits de l'enfant sur ses parents, il y a le fait d'occuper leur temps libre par ce qui est profitable. Et ceci est lié à l'éducation. Tu dois occuper son temps par des choses qui lui profitent, comme l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de la science religieuse, la lecture de hadith, la lecture de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et autres choses semblables. Et nous connaissons tous la valeur et l'importance du temps dans la vie du musulman. Et la perte de temps, elle est pire que la mort, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. En effet, la perte de temps, elle te sépare de quoi? La perte de temps, elle te sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle te sépare de la demeure de l'au-delà. Alors que la mort, elle te sépare de ce bas monde et de ses gens. C'est pour cela que la perte de temps, elle est en réalité pire que la mort. Il est donc important pour nous d'occuper notre temps libre, ainsi que le temps de nos enfants, par ce qui est profitable. Que ce soit l'apprentissage de la science, comme l'apprentissage du Coran ou autre, et autres occupations mondaines, utiles et éducatives, parmi les choses permises. Et celui qui n'occupe pas son temps par ce qui est profitable, il n'y a pas de doute qu'il risque de l'occuper par ce qui lui est nuisible. Et nos salafs, rahimahumullah ta'ala, ils donnaient une grande importance au temps et ils l'occupaient par ce qu'il y a de plus profitable ici-bas et dans l'au-delà. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala a dit: j'ai rencontré des gens qui étaient tous plus avares de leur temps que de leur argent. Le grand savant Muhammad Abdul Baqi rahimahullah ta'ala a dit: je n'ai pas connaissance d'avoir perdu un moment de ma vie dans une futilité ou un amusement. N'a pas perdu un moment de sa vie. L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala rapporte dans la biographie de Abdul Wahhab ibn al-Amin que tout son temps était préservé et qu'il n'y avait pas une heure qui passait sans qu'il ne soit dans une œuvre de bien, dans la lecture, dans le rappel d'Allah, la prière de nuit ou la révision. Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi a dit à ce sujet: le moment le plus pesant pour moi est le moment durant lequel je mange. Subhanallah. Le moment le plus pesant, c'est le moment durant lequel il mange. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous,
C'est le moment le plus plaisant de la journée, le moment du repas, lorsqu'il mange. Cela fait partie de ses plaisirs. Lui, il nous dit le moment le plus plaisant pour lui, c'est le moment durant lequel il mange. Allah al-musta'an. Il est donc important pour nous d'occuper notre temps libre, ainsi que celui de nos enfants, parce qu'il nous sera profitable, ici-bas et dans l'au-delà. Et pour t'aider à cela, il n'y a pas de mal à ce que tu fasses un programme avec tes enfants, et ce afin de t'organiser et de ne rien perdre de ton temps. Tu choisis un temps pour l'apprentissage, un temps pour le repas, un temps pour les loisirs et ainsi de suite. Et si tu observes, la majorité des déviances idéologiques ou des déviances comportementales que l'on trouve chez les jeunes aujourd'hui, alors tu verras que la plus grande cause est l'absence d'attention familiale de la part des parents qui ne prennent pas soin d'eux et qui n'ont pas accompli leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Ou alors, il se peut que les parents ils soient eux-mêmes déviants à la base, Allah al-musta'an, et que leurs enfants grandissent comme eux, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et c'est pour cela que les gens de l'égarement, parmi les mécréants ou les innovateurs, ils utilisent ce temps libre pour attirer les jeunes vers leurs égarements et leurs déviances. Car beaucoup de parents ont abandonné leurs enfants et les ont livrés à eux-mêmes. Combien de parents abandonnent leurs enfants devant la télévision ou sur Internet? Ils les laissent devant des programmes appelant à la débauche, appelant au péché, appelant à la mécréance, et ce de diverses manières, qui sont parfois très subtiles. Ou alors, ils laissent leurs enfants passer leur journée devant les jeux vidéo, des jeux qui inculquent aux enfants la violence, des jeux qui inculquent aux enfants la perversion, des jeux qui inculquent aux enfants le vice, et autres méfaits qu'il y a dans ces jeux. D'autres abandonnent leurs enfants sur les réseaux sociaux. L'enfant, dès son plus jeune âge, il va sur Internet, il va sur Facebook, il voit toutes sortes de perversités, wallah al-musta'an. Les gens de l'égarement, parmi les mécréants et les innovateurs, ils ont donc compris cela. Ils font donc beaucoup d'efforts pour égarer les enfants de manière générale, et plus particulièrement les enfants des musulmans, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver nos enfants. Tu dois donc prendre soin de tes enfants, occuper leur temps par ce qui est profitable, et ne pas les livrer à eux-mêmes, mais leur accorder toute ton attention, car ils sont parmi les gens ce qui mérite le plus ton attention. Neuvièmement, parmi les droits de l'enfant sur ses parents, il y a le fait de prendre soin de trouver à son fils ou à sa fille un conjoint pieux, car ceci fait partie de la bienveillance et du bon conseil envers eux. Et c'est la concrétisation de leurs droits. Donc le père, il doit prendre garde à ne pas contraindre sa fille au mariage à un homme qu'elle n'agrée pas. Surtout si celle-ci refuse de se marier avec cet homme à cause de son manque de religiosité. Mais le père, il doit craindre Allah. Il doit craindre Allah à l'égard de ses filles et chercher pour elles un époux pieux qui prendra soin d'elles et la préservera dans sa religion ainsi que dans ses affaires mondaines. Et de la même manière, les parents doivent aider leur fils à se marier et à trouver une femme pieuse avec qui il s'entraidera et qui sera, inshallah ta'ala, une bonne éducatrice pour ses enfants. Enfin, le dixième droit que l'on va citer ce soir, parmi les droits des enfants, le fait de s'enquérir de leur situation et d'être à leur écoute afin de résoudre leurs problèmes. Il n'y a pas de doute que l'homme, de manière générale, et plus particulièrement les enfants, garçons et filles, sont confrontés dans leur vie à certains problèmes ou à certaines difficultés, surtout lorsqu'ils grandissent. Et à ce moment, les enfants ont besoin d'une attention particulière, une attention qui est différente de celle qui leur était accordée lorsqu'ils étaient petits. Comme on l'a vu, les droits de l'enfant sur ses parents, ils commencent avant même sa naissance. Et ils se poursuivent tout au long de sa vie, même lorsqu'il devient adulte. C'est une erreur de croire qu'une fois que tes enfants seront grands, ou bien une fois qu'ils seront mariés, alors tu auras terminé avec eux, et que plus rien ne t'incombe à leur égard. Au contraire, c'est un devoir pour les pères et pour les mères de veiller à être à l'écoute de leurs enfants, et de les aider s'ils rencontrent des problèmes, et ce de manière raisonnée et avec sagesse. Il y a certaines situations qui vont nécessiter de la fermeté. D'autres situations sur lesquels il faudra fermer les yeux, et ce, selon la situation et le problème. Et il se peut que l'enfant, garçon ou fille, n'ait pas de problème en réalité, mais qu'il est simplement perturbé par certaines choses et qu'il ait besoin de conseils. Et dans une telle situation, les meilleures personnes que peuvent consulter les enfants, ce sont les parents, le père et la mère. Comme on a dit, malheureusement, il y a certains parents qui abandonnent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Tu vois l'enfant qui est grandi et lorsqu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à des mauvaises personnes. Il s'adresse à des inconnus. Il leur livre ses secrets. Et ceci provient du manque d'attention des parents. Mais si les parents
accordent une grande attention à leurs enfants, et que les relations entre les parents et les enfants sont basées sur la confiance et la véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Accompagnés d'une bonne éducation, alors tout ceci simplifiera beaucoup de leurs problèmes, incha'Allah ta'ala. Mais si les relations sont corrompues, ou qu'il y a peu d'échanges entre les parents et les enfants, alors il sera difficile de résoudre les problèmes, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, il est important pour nous de savoir que les jeunes ont besoin d'une grande attention de la part de leurs parents, même une fois grands, et ceci fait partie des droits de l'enfant sur les parents. Ceci n'était qu'un résumé des principaux droits de l'enfant sur ses parents. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous une descendance pieuse et vertueuse. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.